3. Je regagnais à pas lents la maison des chaussures de Dora, à peine conscient de la lumière déclinante. Je pensais à Léa. À ce moment-là, elle était encore Léa pour moi. À la manière dont elle avait ouvert le bouton à côté de la cicatrice qui remplaçait sa bouche. Je revoyais le sang couler. J'imaginais la douleur. Elle était obligée d'accomplir ce rituel, car cette substance visqueuse était la seule chose qui pouvait la maintenir en vie. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois un épi de maïs, ou une branche de céleri, ou un bol du savoureux ragoût de lapin de Dora? Était-elle déjà privée de bouche, lorsque Radar n'était qu'un chiot qui gambadait autour d'une Falada bien plus jeune, elle aussi? Cette beauté qui persistait en dépit d'une sous-alimentation que je devinais extrême, était-elle une sorte de farce cruelle? Léa était-elle condamnée à paraître séduisante et en bonne santé en dépit d'une faim permanente? Aide-la. Comment? Dans un conte de fées, il existerait un moyen. Je me souviens que ma mère m'avait lu l'histoire de réponse quand je n'avais pas plus de 5 ans. Elle restait gravée dans ma mémoire à cause de la faim. La terrible cruauté vaincue par l'amour. Une infâme sorcière punissait le prince qui venait sauver Réponse en le rendant aveugle. J'avais conservé en moi l'image de ce pauvre gars errant dans la forêt sombre, les bras tendus devant lui pour repérer les obstacles. Finalement, il retrouvait Réponse et les larmes de cette dernière lui rendaient la vue. Existait-il un moyen de rendre sa bouche à Léa? Probablement pas en pleurant dessus, mais il y avait bien quelque chose que je pouvais faire. Dans un monde où un cadran solaire pouvait effacer les années, tout devait être possible. Et puis, montrez-moi un adolescent sain de corps et d'esprit qui ne veuille pas être le héros de l'histoire, celui qui vole au secours de la jolie fille. Quant au risque que mon père se remette à boire, je repensais à ce que m'avait dit Lindy un jour. Tu ne peux pas t'attribuer le mérite de son sevrage car c'est lui seul qui y est parvenu. Et si jamais il recommence à boire, tu ne pourras pas t'en vouloir car là aussi, il sera le seul responsable. Je regardais mes pieds, plongé dans mes pensées, lorsque j'entendis un grincement de roues. Levant la tête, je découvris une petite charrette branlante qui venait vers moi, tirée par un cheval si vieux que par comparaison, Falada incarnait la jeunesse et la vigueur. Elle transportait plusieurs paquets. Sur le plus gros trônait une poule. À côté marchait, je devrais plutôt dire, se traînait, un jeune homme et une jeune femme. Ils avaient la peau grise, eux aussi, mais plus claire que les garçons de ferme et la domestique de Léa. Si cette couleur ardoise était un signe de maladie, ces deux personnes en étaient encore au premier stade. Et bien évidemment, Léa n'était pas du tout grise, uniquement dépourvue de bouche. Encore un mystère. Le jeune homme tira sur les rênes du cheval pour l'arrêter. Le couple me regardait avec un mélange de peur et d'espoir. Je pouvais déchiffrer assez facilement leur expression car leur visage était presque intact encore. Si les yeux de la femme avaient commencé à s'étirer, ils étaient loin de ressembler aux deux fentes à travers lesquelles Dora observait le monde désormais. Quant à l'homme, n'eût été son nez qui semblait fondre, il aurait pu être beau.
« Oh !» dit-il. « Sommes-nous les bienvenus? Sinon, prenez ce que vous voulez. Vous avez une arme? Je n'en ai pas. Et je suis trop fatigué. » Trop accablé de chagrin pour me battre contre vous.
Je ne suis pas un voleur, dis-je. Je suis un modeste voyageur, comme vous. La femme portait des bottines à lacets qui, bien que poussiéreuses, semblaient intactes. L'homme, lui, avait les pieds nus et sales.
Vous êtes celui qu'on allait peut-être rencontrer, d'après la dame au chien.
Ça doit être moi.
Vous avez un bon ? Elle nous a dit que oui, car je lui ai donné les bottes que je portais. Elles avaient appartenu à mon père et partaient en miettes.
« Vous n'allez pas nous faire de mal, hein ?»
demanda la jeune femme. Sa voix était déjà celle d'une vieille femme. Pas encore un grognement comme Dora, mais presque. « Ces gens sont victimes d'une malédiction, songeai-je. Tous autant qu'ils sont. Une malédiction lente, la plus terrible peut-être. »
« Non,
la rassurai-je. Je sortis de ma poche une des minuscules chaussures en cuir et la remis au jeune homme. Il la glissa dans sa propre poche.
« Il donnera des chaussures à mon homme ?»
demanda la femme de sa voix rocailleuse. Je répondis à cette question avec prudence, comme il convenait à un garçon dont le père travaillait dans les assurances.
« C'est ce que j'ai cru comprendre. »«
On doit repartir, »
déclara son mari, si c'était bien son mari. Sa voix était un peu moins désagréable. Néanmoins, on ne l'aurait jamais engagé pour être présentateur télé ou pour enregistrer un audiolivre.
« On vous remercie. »
Des bois, de l'autre côté de la route, monta un hurlement. Il s'éleva dans les aigus jusqu'à devenir un cri strident. Un bruit effroyable qui poussa la femme à se blottir contre l'homme.
« On doit repartir !»
répéta-t-il.
« Les loups !»«
Où allez-vous passer la nuit ?»
La femme au chien a dessiné sur une ardoise ce qui ressemblait à une maison avec une grange. Vous l'avez vu ?
Oui, et je suis sûr qu'ils vous accueilleront. Mais dépêchez-vous, je vais en faire autant d'ailleurs.
Rester sur cette route après la tombée de la nuit, ça ne serait pas...
Ça ne serait pas top, pensais-je, mais impossible de le dire.
Ça ne serait pas très prudent.
Non, en effet. Car si les loups se montraient, ces deux-là n'avaient pas de maison en paille ni en brindille, et encore moins en briques pour se cacher. Ils étaient des étrangers en ce lieu. Moi, au moins, j'avais une amie.
« Allez-y. Je pense que demain vous aurez une paire de chaussures neuves. On m'a parlé d'une boutique. L'homme à qui elle appartient vous donnera des chaussures si vous lui montrez votre bon. Mais j'aimerais vous poser une question, si je peux. »
Ils attendirent.
« Quel est cet endroit ? Comment vous l'appelez ?»
Ils me regardèrent comme si j'avais une case en moins, une expression qu'ils n'auraient sûrement pas employée, puis l'homme répondit
« M-Peace !»«
Merci !» Ils poursuivirent leur chemin. Je poursuivis le mien en pressant le pas jusqu'à trottiner. Je n'entendais plus les hurlements, mais le crépuscule était épais lorsque j'aperçus la lumière accueillante de la fenêtre du cottage de Dora. Elle avait même installé une lampe au pied des marches. Une ombre avança vers moi dans le noir. Instinctivement, ma main se posa sur la crosse du revolver de M. Bowditch. L'ombre se matérialisa et prit l'apparence de radar. Je posai un genou à terre pour lui éviter de solliciter ses pattes arrière mal en point en essayant de sauter, ce qu'elle s'apprêtait à faire visiblement. Je la pris par le cou et attirai sa tête contre ma poitrine.
« Salut, Fifi, comment ça va ?»
Elle remuait la queue si fort que son postérieur se balançait de droite à gauche comme un pendule. J'allais la laisser mourir alors que je pouvais faire quelque chose. Et puis quoi encore ? Aide-la, avait dit la servante de Léa. Là, sur cette route de plus en plus sombre, je pris la décision de les aider toutes les deux, la vieille chienne et la princesse gardeuse d'oie, si je le pouvais. Radar se décolla et marcha jusqu'à l'orée du champ de coquelicots où elle s'accroupit.
« Bonne idée, » dis-je, et je baissai ma braguette, en gardant la main sur la crosse du revolver pendant que je faisais ce que j'avais à faire moi aussi.
4. Dora m'avait préparé un lit près de la cheminée. Il y avait même un oreiller dont la taie était ornée de papillons multicolores. Je la remerciai et eus droit à une révérence. Je remarquai avec stupéfaction qu'elle avait remplacé ses chaussures rouges, semblables à celles de Dorothy à Oz, par une paire de Converse jaunes.
« C'est M. Bowditch qui vous les a données ?»
Elle acquiesça et les regarda en affichant son sourire. « Ce sont vos préférés ?» J'étais prêt à le parier, car elles étaient nickel, comme si elles sortaient de la boîte. Elle hocha la tête, pointa son doigt sur moi, puis sur les chaussures. « Je les ai mises pour toi. » « Merci, Dora. » Ses sourcils semblaient se dissoudre dans son front, mais elle haussa ce qu'il en restait en montrant la direction d'où je venais.
« Voir ?»«
Je ne comprends pas. » Elle alla chercher son ardoise et son petit morceau de craie sur son établi. Elle effaça les carrés représentant la maison et la grange qu'elle avait montrés aux deux jeunes gens, et à la place, elle écrivit en majuscule « L-E-A-H ». Elle regarda ce nom, réfléchit, puis ajouta sur l'ardoise « Point d'interrogation ».
Oui, dis-je. La gardeuse doit. Merci de m'accueillir pour la nuit. Demain, on repartira. Elle tapota sa poitrine au-dessus de son cœur, pointa son index sur Radar, puis sur moi, et fit un grand geste des deux mains pour englober tout ce qui nous entourait. Ma maison est ta maison. 5. On mangea encore du ragoût, accompagné cette fois de gros morceaux de pain dur, dur mais délicieux. On dîna à la lumière des bougies. Radar eut droit à sa part de ragoût, mais avant de la laisser se jeter dessus, je sortis de mon sac à dos le flacon de comprimé et j'en glissai deux dans la sauce. Pensant au trajet qui nous attendait le lendemain, j'en ajoutai un troisième, sans pouvoir m'empêcher de penser que je déshabillais Pierre pour habiller Paul. Dora montra les comprimés en penchant la tête sur le côté. Ils sont censés lui faire du bien. On a un long chemin à parcourir et elle n'est plus aussi résistante qu'autrefois. Elle le croit, mais elle se trompe. Quand il n'y en aura plus, un long hurlement, un de plus, s'éleva de l'autre côté de la route. Bientôt rejoint par un deuxième, puis un troisième. Incroyablement fort, il se transformait en cri strident qui me faisait grincer des dents. Radar leva la tête, sans aboyer toutefois. Elle se contenta d'émettre un léger grognement venu du fond de sa poitrine. « Des loups, dis-je. » Dora hocha la tête, croisa les bras, agrippa ses épaules et mima un frissonnement exagéré. D'autres loups se joignirent à la meute hurlante. S'ils continuaient comme ça toute la nuit, je craignais de ne pas pouvoir me reposer avant de débuter mon périple. J'ignore si Dora lisait dans mes pensées ou si c'était juste une impression. Quoi qu'il en soit, elle se leva et me fit signe de la rejoindre à la fenêtre. Elle montra le ciel. Compte tenu de sa petite taille, elle n'était pas obligée de se baisser pour regarder en l'air. Moi, si. Et ce que je découvris provoqua un nouveau choc en cette journée où il s'était succédé. Les nuages s'étaient écartés en formant une longue faille. Et dans la rivière de ciel ainsi dévoilée, je vis deux lunes. Une grosse et une petite. Elles semblaient faire la course dans le vide sidéral. La grosse était très grosse. Pas besoin de télescope pour apercevoir ses cratères, ses vallées et ses canyons sur sa surface ancienne. On aurait pu croire qu'elle allait nous tomber dessus. Puis la crevasse se referma. Et les loups cessèrent de hurler. Immédiatement. Comme si leur hurlement avait été diffusé à travers une enceinte géante que quelqu'un venait de débrancher. Ça se produit tous les soirs ? Dora secoua la tête, écarta les mains et montra les nuages. Elle était très douée pour communiquer avec des gestes et les quelques mots qu'elle pouvait écrire, mais le sens de cette réponse m'échappait. 6. La seule porte du cottage qui ne s'ouvrait pas sur le devant ou sur l'arrière n'était pas plus haute que Dora. Après avoir lavé la vaisselle de notre petit repas, elle m'avait chassé quand j'avais voulu l'aider, elle emprunta cette porte et réapparut 5 minutes plus tard, vêtue d'une chemise de nuit qui tombait sur ses pieds nus et coiffée d'un foulard qui couvrait ses derniers cheveux. Elle tenait ses baskets dans une main. Elle les déposa soigneusement, respectueusement, sur une étagère à la tête de son lit, à côté d'un autre objet qui s'y trouvait déjà, et quand je demandais à le voir de plus près, elle me le tendit, sans le lâcher toutefois. Il s'agissait d'une petite photo encadrée montrant M. Boditch qui tenait dans ses bras un chiot qui était forcément Radar. Dora plaqua la photo contre son cœur, la tapota affectueusement et la reposa sur l'étagère à côté des baskets. Elle désigna la petite porte, puis me montra du doigt. Je pris ma brosse à dents et entrai. Je n'avais pas souvent vu des latrines, sauf dans des livres et quelques vieux films, mais je crois que même si j'en avais vu énormément, celle-ci aurait remporté la palme de la propreté. Il y avait un lavabo en fer blanc contenant de l'eau douce et une cuvette avec un couvercle en bois. Des coquelicots disposés dans un vase mural dégageaient leur parfum de cerise. Mais pas la moindre odeur de déjection humaine. Rien.
Je me lavais les mains, le visage et m'essuyais avec une petite serviette brodée de papillons. Je me brossais les dents sans dentifrice. J'étais resté seulement 5 minutes dans le cabinet de toilette au maximum, mais quand je ressortis, Dora dormait à poings fermés et Radar aussi à côté d'elle. Je m'allongeais sur mon lit de fortune, fait de plusieurs couvertures superposées. Une autre était soigneusement posée dessus, si j'avais froid. Je n'en avais pas besoin pour le moment, car les braises de la cheminée chauffaient encore sacrément. Les regarder s'embraser, puis s'éteindre, offrait un spectacle hypnotique. Les loups s'étaient tus maintenant qu'il n'y avait plus de clair de lune pour les rendre fous. Mais un petit vent s'infiltrait sous l'avant-toit, produisant parfois des gémissements quand il soufflait plus fort, et je ne pouvais pas m'empêcher de songer combien j'étais loin de mon monde. Oh, bien sûr, une courte marche à flanc de colline, un peu moins de 2 kilomètres de couloir souterrain et 185 marches jusqu'à l'ouverture du puits me suffiraient à l'atteindre, mais ces mesures étaient faussées. J'étais dans l'autre monde. J'étais à Empis, où 2 lunes filaient dans le ciel. Je repensais à cette couverture de livres, à cet entonnoir rempli d'étoiles. Non, ce n'étaient pas des étoiles, pensais-je, mais un nombre infini d'histoires qui se déversaient dans cet entonnoir et ressortaient dans notre monde à peine modifié. Je pensais ensuite à Madame Wilcoxen, ma prof de CE2, qui concluait chaque journée par ces mots « Qu'avons-nous appris aujourd'hui, mes chers enfants ?» Qu'avais-je appris ? Que cet endroit magique était victime d'une malédiction. Que les gens qui vivaient ici souffraient d'une sorte de maladie évolutive. Je croyais comprendre maintenant pourquoi le poème que M. Bodich avait imprimé pour Dora était affiché seulement sur le côté du chevalet qui faisait face à la ville abandonnée. Parce que tous les gens venaient de cette direction. Combien ? Je l'ignorais. Mais le fait que l'autre côté du panneau soit vide suggérait que très peu effectuaient le trajet en sens inverse, voire aucun. Si je partais du principe que la masse informe du soleil, obscurcie par les nuages, se couchait à l'ouest, alors le jeune homme et la jeune femme que j'avais rencontrés et tous ceux qui bénéficiaient du programme d'échange de chaussures mis en place par Dora et son frère, venaient du Nord. Qu'ils évacuaient le Nord ? S'agissait-il d'une malédiction déferlante, peut-être une sorte d'irradiation qui trouvait son origine en ville ? Je ne possédais pas assez d'informations pour me faire une opinion, même vague, mais cette hypothèse me déplaisait, car c'était justement la direction que je pensais prendre avec Radar. Ma peau allait-elle virer au gris ? Ma voix allait-elle devenir plus grave, jusqu'à ressembler au râle de Dora et de la dame de compagnie de Léa ? La peau et la voix de M. Bodich étaient normales, mais peut-être que cette partie d'Empis ne présentait aucun danger, ou presque, à l'époque. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Si je commençais à remarquer des changements en moi, je pourrais toujours opérer un demi-tour et prendre mes jambes à mon cou. Aide-la. C'était ce qu'avait murmuré dans mon oreille la domestique à la peau grise. Je croyais connaître un moyen d'aider Radar, mais comment venir en aide à une princesse sans bouche ? Dans un conte, le prince aurait trouvé une solution. Improbable, sans doute, comme les larmes de réponse dont les propriétés magiques rendaient la vue à un aveugle, mais acceptable pour les lectrices et les lecteurs qui réclamaient une fin heureuse, quitte à ce que le conteur la sorte de son chapeau. Mais je n'étais pas un prince. J'étais un lycéen qui avait trouvé le chemin d'une autre réalité, et je n'avais pas le début d'une idée. Les braises dans la cheminée étaient animées par leur propre magie. Elle s'éveillait quand le vent tourbillonnait dans la cheminée et mourait en même temps que lui. À force de les regarder, je sentais mes paupières s'alourdir. Je m'endormis, et au cours de la nuit, Radar traversa la pièce pour venir s'allonger près de moi. Au matin, le feu était éteint, mais là où elle s'était couchée contre moi, mon flanc était chaud.